Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce numéro de février du grand rendez-vous de l'immobilier. Si je vous dis un chiffre 36... C'est pas 36 chandelles, mais c'est la 36e édition de ce numéro du rendez-vous. Là, voilà, le temps passe, on est déjà dans la 4e saison, on est ravis d'être avec vous. Durant une heure, on va, comme on le fait d'habitude, décrypter toute l'actualité de l'immobilier. Et comme c'est d'usage, bien évidemment, l'objectif de cette émission, elle a été construite pour ça, c'est vous donner tous les conseils pratiques de lisibilité pour vos investissements, la location, le syndic, la gestion et la vente, bien évidemment. On a préparé ce magazine, comme d'habitude, avec nos confrères de Capital, avec l'équipe de rédaction, et toujours accompagné de mon fidèle complice depuis 36 numéros déjà, maintenant.
36 numéros.
Tu te rends compte. Guillaume Chazoulière, rédacteur en chef chez Magazine Capital. Comment ça va ?
Bonjour Sylvain, ravi d'attaquer encore ce deuxième numéro de l'année avec vous, et avec deux invités pour cette deuxième. Alain Brosset, directeur des stratégies et des relations territoriales de l'ANA à l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour.
Bonjour.
Qui sera accompagné de Thierry Marchand, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de l'AFNAIM. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous parlerons à la fois du tout récent service public dédié à la rénovation énergétique et aussi des nouveaux diagnostics de performance énergétique auxquels les vendeurs et bailleurs doivent se soumettre alors qu'ils remettent un bien sur le marché. Donc une émission vraiment spécialisée sur la rénovation énergétique aujourd'hui.
C'est vraiment, on va dire que c'est un peu la dent creuse du moment, c'est vraiment le sujet d'actualité, on peut le dire. Merci Alain Brosset d'être avec nous, et vous aussi Thierry Marchand. Et dans ce numéro, on va retrouver bien sûr la séquence que vous préférez, les amis. Ça vous concerne en trois parties, notaire, agent, immobilier, avocat, répondront à toutes vos questions. Les chroniqueurs sont aussi au rendez-vous, on aura le conseil juridique très attendu de notre amie Roselyne Conant, directrice générale de l'ANIL, et bien sûr l'édito de David Benbassa, directeur général de Bien Ici, mais aussi Droit dans l'Immo avec nos amis d'Orpi France. Bien évidemment, c'est parti pour une heure de conseils immobiliers. On enchaîne.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je rappelle aussi que vous pouvez aussi, bien évidemment, sur le Club des Proprios, sur la page Facebook de Capital animée par mon ami Guillaume, posez toutes vos questions comme c'est l'usage tous les mois. Alors on parle de rénovation énergétique dans ce grand rendez-vous, qui est un sujet qui est très ancré dans notre quotidien. C'est un sujet majeur de la campagne présidentielle, parce qu'au-delà du DPE, bien évidemment, et de la lutte contre les passoires énergétiques qui vont améliorer la vie des habitants, un confort de l'habitat, que ce soit de l'air, mais que ce soit aussi la gestion de l'énergie, de l'économie des énergies, et bien sûr de l'impact environnemental qui est sous-jacent à toutes ces actions. Et pour commencer cette émission, on va dresser, si vous voulez bien, le portrait de ce tout nouveau service public dont il faut vraiment beaucoup parler. On a eu le plaisir d'ailleurs de recevoir Emmanuel Wargon, qui nous avait annoncé effectivement pour ce début d'année la naissance de France Rénov', dont l'objectif est d'accompagner les particuliers dans leurs démarches. Et on sait que ces démarches parfois sont compliquées, un peu complexes, et donc du coup cet organisme vient faciliter la vie des Français. Avec, pour en parler sur le plateau, donc, vous êtes le directeur des stratégies et des relations territoriales à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Rebonjour Alain Brosset, et vous allez partager le plateau avec un professionnel en activité qui tous les jours est confronté avec cette réalité liée au diagnostic de performance énergétique. Il anime d'ailleurs, il est le président élu de la chambre de FNIM des diagnostiqueurs. Alors, la première question qui est posée toujours dans notre émission, et c'est une tradition, va vous être posée, si vous voulez bien, par Guillaume Chazoulière.
Merci Sylvain. Et on va commencer par vous, monsieur Brosset. Bonjour, rebonjour. La rénovation énergétique donc s'impose, Sylvain l'a dit, comme un marqueur politique de cette fin de quinquennat. Afin d'accélérer en ce sens, le gouvernement vient d'ailleurs de lancer France Rénov', dont c'est un tout nouveau service public dédié à la rénovation énergétique. Mais encore, de quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce dispositif ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. France Rénov', c'est une marque, c'est la marque du service public de la rénovation de l'habitat. Donc ça va au-delà aussi de la rénovation énergétique pour proposer des conseils et des services qui vont au-delà strictement de la seule rénovation énergétique. France Rénov', très concrètement, dès ce 1er janvier 2022, c'est un site qui s'appelle france-renov.gouv.fr, et c'est aussi un numéro de téléphone téléphone, le 0808 800 700, et c'est 450 espaces conseil France Rénov sur le territoire national pour pouvoir apporter de l'information, du conseil, de l'orientation à tous les ménages qui souhaitent réaliser des travaux jusqu'à la demande d'aide. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais c'est déjà les premiers éléments qui ont été mis en place dès ce 1er janvier 2022.
D'accord. Alors, on voulait vous poser une question pour entrer, si vous voulez bien, c'est le but de cette émission, dans la pratique, puisque l'idée, c'est que les auditeurs qui nous écoutent aient des éléments pratiques. Est-ce qu'on a accès au même type de prestations que l'on soit en ligne sur l'un des 450 sites répartis sur tout le territoire ?
Alors, sur le site en ligne, vous allez trouver de l'information générale sur la rénovation énergétique notamment. Vous allez trouver également des références, comment trouver un artisan qualifié RGE. Vous allez trouver de l'information sur les aides financières disponibles. Et ces informations-là, vous pouvez aussi les retrouver dans les espaces Conseil France Rénov. Les conseillers France Rénov sur le territoire ont cette formation, cette connaissance pour permettre à chaque ménage qui souhaite faire ses travaux, justement, de bénéficier d'un conseil gratuit et d'un conseil qui est aussi adapté à son besoin.
Oui, c'est important de rappeler que cet accès est gratuit.
Alors, tout à fait.
Vous avez parlé de RGE, juste pour nos auditeurs, RGE, reconnu garant de l'environnement.
Oui, tout à fait.
C'est quoi ?
C'est une qualification qui s'applique aux artisans, et cette qualification, elle est nécessaire pour percevoir les aides publiques en matière de rénovation énergétique.
Donc on dit à nos auditeurs que quand vous allez sur ce site, sur les 450 sites, et d'ailleurs sur ces conseils qui sont, je le répète, gratuits, c'est le cas aussi des ADIL et des ANIL, de l'ANIL, hein, conseils gratuits au niveau du logement, veillez bien effectivement à ce que ces labels garantissent, c'est bien ça Alain Brosset, on va dire un travail de qualité.
Tout à fait, c'est une qualification porte notamment sur la façon dont sont réalisés les travaux et les différentes méthodes retenues et les références nécessaires que doit présenter l'artisan qui se présente à votre ménage pour réaliser ses travaux.
Guillaume.
Alors, on continue dans le pratique et on va se mettre à la place d'un particulier qui frappe à la porte d'un des 450 sites ou qui se connecte. Oui. Sur France Rénov, votre première mission, donc, ça va être de, je vous présente un projet et de me lister les types de travaux que moi je devrais entreprendre pour arriver aux besoins que j'ai de performance énergétique, d'isolation, mais aussi de me lister toutes les aides auxquelles je suis éligible. C'est bien ça. Comment vous allez m'accompagner ?
Alors, c'est une démarche qui se fait en plusieurs temps, parce qu'en fait, les ménages qui se présentent auprès des espaces conseil France Rénov ou qui fréquentent le site francerénov.gouv.fr ou qui appellent le numéro de téléphone sont à des niveaux de maturité un peu différents. Certains souhaitent avoir une information assez générale, en fait, sur la rénovation énergétique, les aides disponibles, ce qu'on peut faire en matière de ventilation, de chauffage d'isolation. D'autres ont un projet de travaux un peu plus précis. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir justement formuler leurs besoins, et le conseiller France Rénov va leur apporter une réponse plus personnalisée, un conseil en fait, et pas seulement une information. Ce conseil, il peut être très technique, effectivement, sur le choix, notamment des types de travaux, des isolants, la façon d'aborder aussi le bilan énergétique de son logement. Il peut aussi porter sur la façon de déposer une demande d'aide et comment quel type d'aide sollicitée adaptée au choix qui a été justement fait à ce moment-là par le ménage. Ça peut aussi être la mise en relation avec un artisan au sens effectivement capacité à pouvoir s'assurer que l'artisan est bien RGE.
Oui, justement, voilà. Vous avez toute
ça
la
va
liste
assez
des
loin
RGE,
c'est, de, ce type d'accompagnement et ça peut ça, c'est un entretien qui peut durer une heure et qui peut justement être assez personnalisé
au téléphone si je suis en ligne. Si
alors au téléphone la réponse va plutôt être une information générale. D'accord. Et justement, s'il y a besoin d'un accompagnement plus précis, plus lié à la nature des travaux, du logement, de la composition du ménage, à ce moment-là, il y a une mise en relation avec un conseiller France Rénov.
Et on se déplace. Est-ce que le conseiller se déplace ou il faut se déplacer dans le bureau du conseiller ?
Alors, ça dépend là aussi du niveau de maturité du projet.
D'accord.
C'est-à-dire que le premier entretien se fait en général soit au téléphone, soit en présentiel dans l'espace conseil France Rénov.
D'accord.
Mais s'il y a ensuite une démarche d'accompagnement, et notamment ce qui est mis en place dans le cadre de France Rénov, c'est aussi mon accompagnateur Rénov. Et mon accompagnateur Rénov, c'est une démarche qui implique forcément une visite, une connaissance approfondie du logement. Et ça, c'est un type d'action qui est justement mis en place par certains des conseillers.
Et l'accompagnateur donc se déplacerait sur le site, hein, d'accord ? Est-ce que vous allez, pour rentrer toujours dans l'idée du sujet pratique, vous allez jusqu'à proposer des montages financiers clés en main ?
C'est le cas. L'accompagnateur, ouais, mon accompagnateur Rénov, il y a deux types d'accompagnateurs Rénov. Il y a des opérateurs historiques de l'ANA qui aujourd'hui en fait accompagnent déjà des ménages. Et il y a également des espaces conseil France Rénov qui vont en fait réaliser ce type d'accompagnement. Et ce type d'accompagnement comprend effectivement une sorte d'ingénierie financière,
oui,
si vous voulez, pour monter le bon dossier correspondant.
Vous avez raison.
Sans même parler de l'accompagnateur, quand Sylvain dit montage financier. C'est-à-dire que moi, vous allez m'apporter un plan de financement avec ma prime Rénov, les C2E. Je sais quel est mon reste à charge et mes travaux à faire.
C'est l'objectif.
Le client, enfin, tous ceux que nous avons interrogés, d'ailleurs, on a fait souvent des micro-trottoirs, la première question qu'ils nous posent, c'est on n'y comprend rien, c'est trop compliqué. Et quand on additionne les aides, il nous faut à peu près un Valium ou un Lexomil. Donc je caricature un peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Donc l'idée de l'accompagnateur, franchement, je trouve ça génial. J'ai fait un édito là-dessus sur BFM Business et je trouve l'idée pertinente. Est-ce que, je vraiment très pratique, je viens, je pose ma problématique, je sors avec, vous savez, une espèce de plan de financement très graphique, très très synthétique, qui me dit, en fonction de vos ressources, vous avez droit à temps, en fonction de votre âge ou en fonction de tel élément, mais aussi des aides locales, parce qu'on a remarqué avec Guillaume que selon les villes ou les régions, il y a des aides ou il n'y en a pas. Il y en a qui sont conditionnelles et d'autres pas. C'est, voilà,
ils sont surtout méconnus. Donc c'est ça, un vrai plan de financement.
Oui, tout à fait. Je le redis, parce qu'en fait, on a des niveaux de maturité qui sont différents.
Mais
c'est important, parce qu'il y a des personnes qui ont une demande très générale et d'autres qui ont une demande très précise.
Très précise.
Et dans la demande très précise, l'accompagnateur Rénov va aller justement dans le niveau de précision en disant, votre opération, elle coûte tant, vous aurez un reste à charge de tant, vous aurez tant de certificats d'économie d'énergie, tant de ma prime Rénov, etc.
C'est ça qu'on veut.
Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les accompagnateurs dont on parle, dont la loi climat fait part. Donc
c'est les mêmes.
On parle exactement de la même chose.
On parle des mêmes, oui.
Parce que ces accompagnateurs, me semblait-il, c'était pour des gros travaux de rénovation globale.
Alors, mon accompagnateur Rénov, je vais y arriver, est en place dès janvier 2022. Il a vocation à accompagner tout type de projet.
D'accord.
Après, ce qui est engagé, c'est une concertation justement pour plutôt l'année 2023, pour voir en fait comment étendre et avoir encore plus de modalités d'accompagnement. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez être accompagné par mon accompagnateur Rénov dans le cadre de ce qu'on vient de se dire.
Alors, qu'est-ce qu'il fait à part ce plan de financement après, c'est de mettre d'où il suit le projet ou s'arrête là?
Il peut suivre le projet, il peut donner des conseils sur les travaux, sur le choix aussi types de travaux, sur la face.
Alain Brossé, pardonnez-moi. Je vais préciser la question parce que c'est hyper important etc. Ça s'apparente à une forme d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, vous savez, les fameuses AMO. Est-ce que vous allez jusque là ou pas? Ou c'est juste vraiment un conseil de suivi?
Et pour quel type de travaux vous allez plus loin?
Non, ça va effectivement jusqu'à l'assistance
à la maîtrise d'ouvrage.
Ça permet notamment d'identifier à la fois ceux qui vont réaliser les travaux, ça permet de conseiller sur le choix des travaux, ça permet de pouvoir, effectivement, on a parlé du montage financier, mais ça va aussi jusqu'à la qualité technique, en disant c'est opportun, pas opportun de faire tel ou tel type de choix.
Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à la négociation du prix? Avec l'entreprise. L'entreprise. Le devis. Il y a un devis. Non, mais il y a un devis de travaux.
Oui, tout à fait.
D'accord, qu'on arbitre, etc. Est-ce qu'il peut y avoir une négociation, un accompagnement à la négociation? Ça pourrait ou pas? Non.
Formellement, non. Ça reste le ménage qui contractualise avec chacune des entreprises.
Hein. On est d'accord.
D'accord.
On va accélérer dans notre truc, puisque, comme vous le savez, on veut être extrêmement pratique. Vous savez ce qu'on a été faire? On a été voir les Français dans la rue, et on leur a posé la question. C'est Guillaume qui s'en est occupé, n'est-ce pas Guillaume ?
Oui, ou plutôt des équipes de Capital, et on leur a posé la question de l'isolation. Quelle importance, parce que c'est On peut se poser la question de savoir quel degré de maturité un peu des gens par rapport à l'isolation. Quelle importance accordez-vous à l'isolation?
Ouais, ça, c'est bien parce
quand
que
vous rentrez dans un logement pour le louer ou pour l'acheter, parce que est-ce que c'est devenu vraiment un critère?
Moi, je vais vous dire, déjà, pour se loger, c'est une galère. Donc, rien que le fait d'avoir un appartement pour beaucoup, voilà, c'est déjà énorme. Donc, il y a parfois
c'est des Parisiens, hein, voilà, un prisme parisien.
Oui, oui. Enfin, ceci dit, Guillaume, si on allait dans les grandes métropoles, on aurait peut-être trouvé des comportements similaires. Mais dans une grande métropole où il est difficile de se loger.
Vous allez voir, c'est intéressant.
On écoute.
Quelle importance accordez-vous à l'isolation lorsque vous visitez un logement ?
C'était peut-être pas trop d'actualité jusqu'à il y a 5-6 ans, mais actuellement, ça me paraît, oui, un élément assez essentiel. Alors, je crois qu'il y a des aides et des incitations fiscales. Alors, évidemment, il y a certains qui sont intéressés par le fait de pouvoir en bénéficier. Donc, ils vont acheter une passoire. Hein.
Oui et non. En fait, je sais que normalement, on doit avoir un bilan énergétique qui est fourni par l'ancien propriétaire. Là, pour d'obscures raisons, on ne l'a pas vraiment eu. C'est presque accessoire, en fait, l'énergie, tout ça et tout. On se dit que on pourra faire des travaux, on pourra mettre à notre goût, profiter de certaines primes aussi, je sais qu'il y en a. Voilà, donc c'était pas une priorité, j'avoue.
Pas vraiment, j'ai eu un coup de cœur et puis je me suis rendu compte avec le temps que l'isolation, c'était pas ça, quoi. J'ai des endroits où c'est un peu humide et il y a un petit peu de moisissure qui s'est mise sur les murs. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, ça va, elle est saine la maison, mais bon, voilà, quoi, il y a quelques petites... On a eu quelques petites surprises.
Alors non, justement, j'ai pas fait attention à ces critères-là parce qu'on m'a dit que c'était que justement il y avait des travaux qui avaient été faits par rapport à ça. Donc du coup, on m'en a informé avant que je pose la question. Mais par contre, je remarque aujourd'hui, j'y suis depuis novembre, début novembre, et je remarque aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes d'isolation encore. Et du coup, il y a de l'eau qui s'écoule sous mes fenêtres. Donc je suis en train d'essayer de régler le problème. J'ai des entrepreneurs qui sont venus, etc., justement pour essayer de régler ce problème-là. Donc.
Oui, mais c'était pas un critère. Ça n'a pas été retenu comme critère final pour l'achat. C'est en haussmannien, donc c'est. Il n'y a pas forcément d'isolation. Après, c'est des habitats denses, finalement, il y a chauffage collectif et puis finalement il y a assez peu de dépenses énergétiques. Étant donné que les voisins chauffent en dessous, au-dessus, etc. Donc, j'imagine qu'il y a un gain d'efficacité de ce point de vue-là.
La maison, c'était clair qu'elle n'était pas isolée au début. Donc quand j'ai emménagé, j'ai installé une isolation dans le grenier. Moi-même, j'ai déroulé une isolation. Mais je ne m'étais pas vraiment rendu compte au début de l'impact que ça pouvait avoir l'isolation sur notamment le coût du chauffage. Et c'est vrai qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte, en fait, hein, de la réalité de ça. Donc dans la deuxième maison que j'ai achetée, en effet, j'ai fait plus attention, ouais. J'habite à la campagne et voilà, il n'y a pas de mur mitoyen ou de voisins qui chauffent pour nous, quoi.
C'est intéressant comme retour, parce que on a fait un petit peu de patchwork, mais on n'a pas franchement l'impression, Alain Brosset, que la prise de conscience dans le public.
En fait, c'est très intéressant, je vous le confirme. Et ce que disent ces différentes personnes, qui ont en plus de profils très variés, donc c'est effectivement représentatif, ils disent en fait qu'on ne peut pas distinguer le bilan énergétique du confort. On a beaucoup de personnes qui disent en fait j'ai des problèmes de moisissure, c'est pas forcément un problème de température ressentie ou de consommation de gaz à effet de serre. Et donc cette approche globale, c'est bien ce qu'on souhaite faire avec justement France Rénov', parce que France Rénov', c'est la rénovation de l'habitat. Et donc ça porte aussi sur des conseils en matière notamment d'étanchéité, par exemple, qui sont pas des problèmes d'isolation ou des façons aussi d'occuper le logement. Ça a été un peu évoqué par le dernier monsieur qui disait, mais en fait, comment est situé mon logement, comment je le vis, etc. Voilà. Et donc, c'est tout à fait ça. Une approche globale c'est, en matière d'habitat, c'est vraiment nécessaire. Mmh. Et puis, si on parle strictement bilan énergétique, on a toujours trois composantes. Et ça, pour vos auditeurs, c'est très important. Il y a toujours une réflexion autour de trois points. C'est l'isolation, le chauffage et la ventilation. Et ça ressort beaucoup dans le micro-trottoir que vous avez fait. Et ces trois dimensions-là sont à lier ensemble. Et un artisan qui est effectivement un artisan qui a une compétence dans ce domaine va intégrer lui aussi, même si son offre c'est une offre de chauffage, va intégrer l'isolation et la ventilation parce qu'il sait que les trois sont liés ensemble.
Et Thierry Marchand, une réaction ?
Alors c'est très intéressant comme approche parce qu'on s'aperçoit que l'isolation est à peine encore pris une prise de conscience sur l'isolation, ouais. Mais ça revient aussi au fait que je parle du DPE, mais le DPE qui a été lancé en 2006 a été pendant jusqu'en 1er juillet 2021 qu'un élément d'information. Donc une prise de conscience finalement très peu réelle pour les acquéreurs de biens, sauf les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles. Et c'est vrai qu'on fait l'acquisition d'un bien pour un bien de sa vie, mais on s'occupe pas réellement de la qualité intrinsèque du bien. Seul point qu'on fait attention, c'est est-ce que j'ai un double vitrage ou pas un double vitrage. Point.
Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça a le mérite de pointer une chose, Alain Brosset et vous, Thierry Marchand, c'est le fait qu'il faut beaucoup de pédagogie au niveau du grand public pour accompagner ces mouvements-là, bien évidemment, parce que nous on maîtrise bien évidemment un peu plus le sujet, et pour cause. Mais l'important, c'est ceux qui sont les usagers au quotidien, et donc ça donne le ton. Merci à vous deux. Vous allez rester avec nous jusque effectivement dans cette deuxième partie où on va parler un peu plus du DPE, bien évidemment. Et après l'édito de notre ami David Benbasser, on va parler donc de TPE, on peut dire nouvelle version, sans faire de jeu de mots. Donc il va y avoir... est-ce que c'est le temps de dresser peut-être des premiers bilans, en tout cas quels changements et quelles conséquences sur les acheteurs et les vendeurs? On va y revenir dans la deuxième partie de notre entretien. Et dans un instant, on va retrouver vos experts.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
And trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble bust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Rebonjour les amis, 36e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, et oui, et les experts, dans ça vous concerne, première formule, première séquence. Aujourd'hui, nous avons un agent immobilier sur le plateau. Bonjour Jean-Luc Brulard.
Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume.
Voilà, Jean-Luc Brulard qui dirige l'agence Immédiat. Alors là, on va parler d'un sujet prosaïque, mais terriblement efficace. Ce sont les toilettes, n'est-ce pas Guillaume?
Les toilettes, oui, les toilettes d'Audrey.
Non mais excusez-moi Audrey. Non,
mais c'est notre quotidien, c'est notre quotidien.
Non, c'est la façon dont il le dit. Non mais Audrey, on va répondre à autre chose.
Non, c'est plutôt les toilettes de la locataire d'Audrey.
Oui, d'accord.
Qui habite à Limoges. Et alors ces toilettes, ça déborde, nous dit-elle. Qui du locataire ou du bailleur prend en charge l'intervention du plombier? Question classique.
Ouais. Question classique quotidienne.
Qui prend en charge l'intervention du plombier?
Mais réponse un petit peu subtile quand même,
voilà.
Assortie de quelques conseils pratiques, voilà. Si vous permettez. Le décret de 87 sur les réparations locatives évoque bien que les dégorgements, puisque ça s'appelle comme ça, là, voilà, sont à la charge du locataire. Mais
locataire.
Voilà, la cause étant un engorgement. Alors. C'est un peu plus subtil et permettez-moi ces conseils pratiques. D'abord, en général, ça arrive un dimanche. Donc, on ne se précipite pas, on ne panique pas. On n'appelle pas un SES qu'on a eu dans sa boîte aux lettres parce qu'il y a quelques margoulins. On ne signe pas ni un chèque, ni un devis. Voilà, on essaye de ne pas aller dans ses toilettes pour, si c'est un dimanche, pour en tout cas passer par son administrateur de biens ou son propriétaire, si on est locataire en direct, pour se mettre d'accord sur l'intervention d'un plombier. Voilà. Le plombier va venir, on va essayer de faire des photos, si on peut. En tout cas, on va demander au plombier de faire un rapport sur les causes et les motifs. Parce que, première situation, l'engorgement a eu lieu dans une colonne verticale. Et là, ce sont les parties communes. Je vous vois effondrer, mais nous, encore une fois, c'est notre quotidien. Alors, si c'est dans une colonne verticale, sauf si vous habitez au dernier étage, vous allez vous en rendre compte. Puisque, évidemment, si l'engorgement est en dessous, toutes les toilettes de vos voisins du dessus vont sortir sur votre moquette. Donc la première étape, c'est d'aller tout de suite frapper chez vos voisins pour leur dire « ne vous servez pas de vos toilettes ». Si ça se passe autrement, et notamment si c'est sur la partie privative, c'est-à-dire la canalisation horizontale qui est à l'intérieur de votre logement, alors là, c'est une autre affaire. Puisque dans le premier cas, la colonne, partie commune, donc c'est une question de copropriété. Mmh. On ne sait pas déterminer qui est le responsable. Si c'est la partie privative, deux cas de figure. Soit, et on revient sur le décret de 87, c'est une question de mauvaise utilisation parce que il y a un morceau de plastique, la voiture miniature du petit garçon qui est restée en travers de la canalisation. Et ça, c'est du mauvais entretien. C'est à la charge du locataire. Si par contre, le plombier s'aperçoit que soit il y a une malfaçon dans la réalisation de la canalisation ou, et c'est souvent le cas de la vétusté, notamment avec du tartre, mais j'arrête parce que vous êtes effondré, parce que parfois, le tartre, il a réduit à une section de 5 ou 10 cm, c'est de la vétusté, donc ça va être à la charge du propriétaire.
C'est parfaitement clair et merci d'avoir regardé votre
sang froid. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi, mais...
Je suis pédagogue.
non, mais c'est vrai que... C'est terriblement prosaïque, effectivement.
Vous allez la garder ou pas ?
C'est super intéressant.
Non, mais, on va la garder.
On la garde. Parce qu'elle est, elle est superbe.
Vous êtes effondré, les mecs.
Non, mais on va la garder. Mais Jean-Luc, franchement.
Mais toi,
il est extraordinaire. Non, mais j'aime bien cette couche. Qui c'est qui prend la photo ? Moi, j'adore. Voilà. Enfin, j'adore.
Avec un maximum de détails, c'était parfait.
C'est terriblement efficace. Voilà, pardonnez-moi, mais ça ferait rire. Bon, c'est vrai que ça fait un peu sourire, mais sur le moment, effectivement.
Non, puis c'est une vraie question. Alors là, combien on en entend, c'est pas moi qui prends en charge le machin.
Mais quand ça arrive, c'est vraiment pas drôle. Alors on va passer côté syndic, si vous voulez bien. Donc le syndic d'Hélène, on a Hélène qui vit à Paris. Ce syndic vient de rompre son contrat, comme ça, suite à une assemblée générale, on va dire plutôt hostile, ou assez houleuse. Est-ce qu'il est autorisé à rompre le contrat de la sorte et comment la propriété, du coup, comment elle fait pour rebondir ? Est-ce que le syndic, il a le droit de se barrer comme ça
en quitter
disant,
le navire, quoi.
Alors, quitter le navire, prenez votre contrat, je m'en fous, je m'en vais.
Voilà. Comme on parle de contrat, on parle d'un syndic professionnel, puisque dans des petites copropriétés, il peut y avoir des syndics bénévoles. Donc là, encore une fois, je me place dans le cas d'un syndic professionnel. Non, un syndic professionnel ne peut pas agir de la sorte. C'est sans doute pas d'ailleurs un syndic de la FNAIM, parce que il y a une réglementation. Le syndic, ce n'est pas qu'un prestataire. C'est un mandataire pour la gestion de la copropriété. Il en détient les fonds, il paye les fournisseurs. La copropriété ne peut pas fonctionner sans le syndic. C'est pour ça que la loi protège les copropriétaires avec des obligations, un cadrage. Si le syndic prend l'initiative de la rupture de son contrat de syndic, doit y avoir un motif légitime et sérieux. Et il ne peut pas le faire sans avoir convoqué dans un délai minimum de 2 mois une assemblée générale, à l'issue de laquelle il pourra donner sa démission. On est bien dans ce cas de figure, d'après ce que j'ai compris dans la question, puisqu'il y a d'autres situations où, à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire, par exemple, on décide de changer de syndic. Et bien dans ce cas-là, les choses se passent plus naturellement. J'ajoute que le syndic... qui va décider de jeter l'éponge, a aussi des obligations en termes de transmission des fonds qui sont sur son compte, puisque vous savez que les syndics doivent avoir un compte séparé par copropriété. Donc c'est l'argent qui va permettre de payer les fournisseurs de la copropriété. Va aussi avoir des délais pour transmettre les documents de base qui vont permettre de continuer la gestion de la copropriété. Et il devra aussi faire, dans les 3 mois de mémoire, un arrêté des comptes pour ce qui le concerne, de la copropriété, avant de rendre les clés, si je puis dire.
Merci, c'est très clair. Voilà pour vous, Hélène, et surtout, tenez-nous au courant de la suite, bien évidemment. Merci à vous, Jean-Luc Brulard. On peut vous retrouver à Rueil-Malmaison. Vous avez une agence qui s'appelle Immedia. Et le site internet, c'est www.agence-immedia.fr. C'est bien ça ?
Exactement.
Voilà, c'est la bonne adresse si vous voulez aller à Rueil. Jean-Luc Brulard, un professionnel comme on les apprécie. On se retrouve dans un prochain grand rendez-vous de l'immobilier avec toujours votre expertise. On enchaîne avec notre émission dans ce 36e numéro. Salut Jean-Luc.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de l'édito de David Benbassa, car chaque mois, nous le retrouvons pour son audito. Et vous allez nous parler, David, des passoires thermiques.
Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Aujourd'hui, je vais vous parler des passoires thermiques. Alors effectivement, on en parle depuis un certain temps, mais c'est cette année que le sujet des passoires thermiques va réellement impacter le marché immobilier français. Alors quand je dis cet été, c'est effectivement à partir du 25 août 2022 que les loyers seront gelés pour les logements en DPE, diagnostic de performance énergétique F ou G. Je vais le dire souvent ce mot. Et à partir du 1er janvier 2023, interdiction de louer les logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an, donc ceux notamment notés G. Autrement dit, tout ça, c'est demain. Donc, on a regardé un petit peu sur Bien Ici comment se comportait le volume de ces logements notés F ou G. Alors, il représente 12% des annonces de transactions, 11% des annonces de location. Pour ça, ça fait pas beaucoup, mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Sur la location, la part est quasiment identique à celle de l'année passée. Par contre, sur la transaction, on voit que la part a été multipliée par 2 en seulement un an. On est passé de 2 à 4% pour les logements classés G et de 5 à 8% pour les logements classés F. C'est assez important comme mouvement, On va faire un petit cas particulier sur Paris où là vous allez voir que c'est encore plus impressionnant. Les logements à louer dont les DPE sont F et G, eux représentent en gros un quart de l'offre locative, ce qui est important. Et 10% sont classés G et cela finalement ne pourrait plus être loué aujourd'hui si la loi était déjà appliquée. Le volume, ce quart de l'offre locative, c'est identique, ça n'a pas évolué entre 2020 et 2021. Par contre, quand on regarde les sujets de transactions et les biens à vendre, la part effectivement des logements notés F et G, et ben eux, ont été multipliés par 2 en un an et représentent maintenant 25% de l'offre de logement à Paris. C'est très impressionnant. Si on regarde maintenant le marché national, pour le marché locatif, finalement, la pression est tellement importante qu'il y aura assez peu d'impact. Le critère DPE, effectivement, ne joue pas un rôle clé dans la décision de louer. La règle du premier arrivé, premier servi reste de mise. Et finalement, tant que le candidat répond aux critères de revenus, finalement, il pourra louer. Pour la transaction, on voit un léger effet, et ça c'est important à noter. Plus le DPE est élevé, plus la demande par annonce baisse. Ça veut dire que, effectivement, le DPE n'est plus un critère de sélection, mais ça devient un critère de choix. C'est quelque chose qu'on va regarder de près. Un autre impact aussi sur le prix au mètre carré, on voit que pour les logements G, le prix a diminué d'environ 25% sur les 8 derniers mois, depuis le mois de juin 2021. Alors, vous le savez, la loi Climat et Résilience, celle qui fixe le calendrier des obligations énergétiques, finalement, elle va s'étendre jusqu'en 2050. Le but est assez clair, c'est finalement que tous les logements vendus ou loués soient notés en catégorie A ou B. Cela signifie qu'ils consomment moins de 110 kWh par mètre carré par an et également qu'ils émettent moins de 11 kg de CO2 par mètre carré et par an. Ces restrictions concernent tout le monde, mais peut-être avant tout les bailleurs qui doivent agir dès aujourd'hui pour pérenniser leur investissement. Les vendeurs et les acquéreurs vont aussi être impactés finalement, bien évidemment, par les évolutions du prix des biens. Mais entre fatalité et opportunité, la frontière est ténue et moi je vais essayer de vous parler d'opportunité. On commence par les travaux d'amélioration de la performance énergétique, finalement qui s'articulent autour de 3 grandes catégories de travaux, l'isolation, la ventilation et la production d'énergie de chauffage. Finalement, le champ est assez large et c'est entre ces 3 catégories qu'il va falloir combiner pour arriver à faire des économies et à réduire la consommation énergétique du logement. Et je le disais, il faut agir. Et ben, pourquoi pas le faire maintenant et bénéficier tant qu'il est encore temps des aides financières comme celles proposées par MaPrimeRénov', par l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, ou encore le soutien de certaines banques comme la Banque Postale ou le Crédit Mutuel qui ont mis en place des prêts avance rénovation. Ça, c'est intéressant. Alors, on voit bien que tout ça est dans l'objectif d'améliorer les notes de DPE. Alors, quand on regarde avec l'évolution du calcul de DPE du 1er juuillet 2021, on constate que 7 à 10% des annonces de logements classés G étaient seulement classés F avant l'évolution de ce calcul de critères, ce qui correspond à une différence de 30 kilowattheures par mètre carré et par an depuis le changement de barème. On regarde un peu plus précisément, on voit aussi qu'un tiers des annonces de logements G nécessitent un gain de 60 kilowattheures par mètre carré et par an pour améliorer leur note et passer à la catégorie F. On voit bien que ces premières marches semblent clairement atteignables. Alors la question de la rénovation énergétique chez les propriétaires bailleurs, bah, c'est pas si nouveau car c'est ce qui a construit le dispositif de Normandie qui a connu un fort succès notamment depuis 2019. Le bénéfice, je vous le rappelle, c'est simple, économie d'impôt en fonction du nombre d'années de mise en location des biens. Donc on fait des travaux, on loue et on bénéficie d'économies d'impôt, 12% d'économie d'impôt pour 6 ans de location, 18% pour 9 ans de location et 21% d'économie d'impôt pour 12 ans de location. Alors quand je vous parlais d'opportunités, vous arrivez à faire le lien là, à n'en pas douter, on va voir arriver, c'est sûr, des nouveaux investisseurs qui vont profiter des prix bas sur les logements classés F ou G, les mettre, les rénover et les remettre sur le marché, soit en location, soit en transaction. C'est un vrai intérêt aujourd'hui de pouvoir cumuler finalement les avantages fiscaux du De Normandie, j'en ai parlé, et ceux de MaPrimeRénov'. Donc on a fait un petit exercice chez Bien Ici pour aider tout le monde et on a regardé les volumes de logements qui étaient concernés finalement par cette zone géographique du dispositif de Normandie qui concerne 245 villes en France, tous les logements à moins de 225 000 euros parce que le De Normandie met un plafond d'investissement à 300 000 euros intégrant 25% de travaux. Donc on va regarder les logements qui sont à moins de 225 000 euros. On va regarder ceux qui ont un prix au mètre carré inférieur à 5 500 euros. C'est aussi les critères du De Normandie. Et enfin, on va regarder l'ensemble des logements qui sont classés G. On a fait une page de résultats et on l'a faite pour vous. Ça veut dire que si aujourd'hui vous allez sur www.bienici.com/radioimo en un seul mot, vous allez pouvoir identifier finalement près de 2000 annonces qui sont concernées par cette mécanique et peut-être allez-vous trouver la perle rare et faire un investissement idéal. Le volume d'annonces, il évolue, il va évoluer très certainement. C'est encore trop tôt pour dire si les biens en location classés G vont passer demain en transaction. Mais on va suivre tout ça pour vous. En tout cas, une seule bonne adresse peut-être pour jouer une opportunité. www.bienici.com/radioimo.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus Marché de l'Immo par David Benbassa.
Eh bien David, nous continuons avec vous, avec un professionnel de l'immobilier, c'est l'usage, on l'appelle chaque mois, on va toujours en région. Et il va nous rejoindre par téléphone, il s'agit de
Jean-Gilles Courallot, c'est le gérant de l'agence Les Copains de l'Immo à Thonon-les-Bains. Et compte tenu du sujet qui nous intéressait aujourd'hui, je me suis dit que c'était une bonne idée d'avoir un peu une remontée du terrain. Bonjour Jean-Gilles.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. J'avais moi quelques petites questions à vous poser. Et la première, c'était, est-ce que vous aviez constaté une hausse des mises en vente de logements avec un DPE F et G sur votre secteur ?
Oui, bonjour. Alors effectivement, cette nouvelle réglementation arrive juste après le haut de la vague de la crise sanitaire liée au Covid, ce qui a entraîné une hausse des prix significative sur le marché de l'immobilier, dans le neuf comme dans la revente. Les propriétaires de logements mal étiquetés, s'ils doivent vendre, profitent également de cette hausse de marché. Ils peuvent donc vendre en prenant en compte les travaux qui seront à réaliser par eux-mêmes ou bien par leurs futurs acquéreurs. Sur le marché de la résidence principale, par exemple, la hausse des ventes n'est pas forcément due à ce nouveau DPE, mais à une hausse significative de la demande. En revanche, il est vrai que sur le marché de l'investissement et de la résidence secondaire, il y a une forte hausse d'estimation et de mise en vente liée au nouveau DPE. En effet, un propriétaire d'un logement secondaire est très souvent déjà propriétaire de sa résidence principale avec tous les frais que cela engendre, prêts en cours, frais d'entretien, taxes foncières, etc. Et l'idée de devoir effectuer des travaux importants dans leur logement secondaire est pour beaucoup d'entre eux impossible financièrement.
D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de mandats, finalement, avec ces diagnostics mal notés F et G. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie au sein de l'agence pour capter et ces mandats et rassurer le propriétaire ?
Oui, bien sûr. En tout cas, on a essayé de le faire, effectivement. Donc, il faut savoir que dans chaque transaction, un des fondamentaux de notre agence immobilière est le conseil, le service apporté à nos clients acquéreurs et vendeurs. Il faut donc prendre le temps d'expliquer les points forts et les points faibles aux clients. Ensuite, il faut leur apporter des solutions. Une d'entre elles est de faire réaliser, par exemple, des devis de travaux pour la mise aux normes énergétiques. Mais ensuite, il faut trouver des solutions pour financer ces travaux. Donc, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes propriétaire de résidence principale, vous avez certainement le droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique. Il y a certains critères d'éligibilité, évidemment, mais nous accompagnons nos clients dans les démarches qui sont souvent fastidieuses. Point important, le CITE s'applique également pour les biens en copropriété, si bien dans les parties privatives, mais également dans les parties communes. Si vous êtes propriétaire de votre logement secondaire, vous pouvez réaliser des travaux sous la forme de déficit foncier, ce qui vous permettra de défiscaliser les montants de vos travaux sur vos revenus locatifs. Pour l'organisation des travaux, nous pouvons mettre en relation des entreprises qualifiées et compétentes dans notre secteur. Il est important d'avoir des solutions complètes à proposer à nos clients.
Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'est très très clair. Et moi j'aurais qu'un conseil à donner, et ça suivra tous ceux que vous donnez à vos clients. Si vous êtes à Thonon-les-Bains et que vous cherchez à mettre votre bien en vente, il faut aller toujours pas s'adresser aux copains. Et les copains de l'IMO, ben, c'est la bonne adresse pour faire ça. Merci beaucoup Jean-Gilles, à très bientôt.
Eh ben, merci à vous, au revoir, à bientôt.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Rebonjour dans ce 36e numéro, et oui déjà 36, l'âge de raison, notre numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, comme quoi finalement c'est grâce à vous que nous sommes toujours là. Notre expert, il est habitué des plateaux, il est avocat au barreau de Paris, c'est Xavier Demesois. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors Xavier, vous êtes spécialiste en particulier en location saisonnière et en droit de l'immobilier. On est ravis de vous recevoir dans ce grand rendez-vous, bien évidemment aux côtés de Guillaume, et vous allez répondre, comme c'est l'usage ici dans notre émission, aux questions des auditeurs qu'ils posent d'ailleurs sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, Guillaume.
Oui. Alors, première question de Catherine de Rouen. Alors, le bailleur de Catherine vient de lui délivrer un congé pour reprise afin d'habiter. Mais Catherine suspecte que son bailleur souhaite en réalité récupérer le logement, non pas pour habiter, mais pour vendre. Elle se demande quels sont ses droits à ce moment-là et que risque le bailleur indélicat.
Alors, en fait, effectivement, c'est un sujet qu'on rencontre très fréquemment devant les tribunaux. C'est le cas où le bailleur délivre un congé pour reprise pour habiter. Et en pratique, en réalité, le bailleur ne le reprend pas du tout pour habiter. Il le vend ou il le loue à quelqu'un d'autre, par exemple. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit votre auditrice est déjà dans les lieux, elle n'est pas encore partie, on est dans la période du congé, et elle voit, par exemple, une annonce sur Internet de vente du bien. Dans ces cas-là, il faut tout de suite qu'elle saisisse le tribunal judiciaire via un avocat pour contester la validité du congé et expliquer qu'il s'agit d'un congé frauduleux. Deuxième hypothèse plus courante, celle-là, c'est le cas où elle est partie à l'issue de son congé et elle s'aperçoit après coup que finalement le propriétaire n'habite pas dans les lieux comme c'était prévu. Alors que nous dit les textes finalement ? Alors la loi de 89 ne nous donne pas de délai maximum ou pour offrir au propriétaire le choix de l'habiter. En fait, c'est du cas par cas. Simplement, la jurisprudence nous dit que ça doit être fait, la reprise pour habiter doit être fait dans un délai raisonnable et pour une durée sérieuse. Donc très concrètement, pour vous donner deux exemples, la jurisprudence a pu considérer par exemple que un propriétaire qui avait laissé vacant l'appartement pendant 3 ans, c'était légal puisqu'en fait il avait mis cette période à profit pour faire des travaux dans les lieux. De même, la jurisprudence a pu considérer qu'une personne, un propriétaire qui était malade, n'avait pu habiter les lieux et l'avait donc laissé vacant. A contrario, il faut être vigilant sur le fait si on voit par exemple que le propriétaire n'habite pas dans les lieux du tout et qu'on voit qu'effectivement c'était bidon. Et dans ces cas-là, j'invite véritablement l'auditrice à saisir le tribunal, preuve à l'appui évidemment. Le mieux, c'est de faire un constat d'huissier, pourquoi pas même un rapport d'un détective, et d'aller au tribunal en disant, à peine deux mois après mon départ, finalement, j'ai quelqu'un d'autre dans les lieux où il a été vendu. Ouais. Et là, le tribunal ne pourra pas réintégrer votre auditrice dans les lieux. Les tribunaux ne le font jamais. Mais on sera sur le terrain indemnitaire. C'est-à-dire qu'elle pourra prétendre à la compensation de son déménagement.
On donne raison au locataire dans ce cas-là ?
Comment ?
On donne raison souvent au locataire.
Là encore, ça dépendra du délai dont le propriétaire n'a pas repris les lieux rapidement. Dans ces cas-là, les tribunaux sont très sensibles, effectivement, à indemniser, effectivement, ce qui s'appelle un congé frauduleux. Dernier point d'importance, un congé frauduleux est sanctionné pénalement. Un bailleur qui donnerait un congé frauduleux s'expose pour une personne physique à 6 000 euros d'amende, et à une personne morale, ça peut monter à 30 000 euros d'amende.
Vous êtes donc prévenu, c'est chaud.
Le bailleur de Catherine est donc prévenu.
En fait, c'est un motif fallacieux, quoi. Je dis je vais habiter, puis parce qu'en fait, j'ai envie de virer mon locataire pour augmenter le loyer.
Exactement.
Ça calme. Alors, une autre question qui vient de notre ami Serge, qui est à Brest. Il est locataire. Serge, salut Serge. Et il doit de l'argent à son bailleur. Bon, et oui, effectivement, il aurait bien aimé continuer à payer son loyer, mais il doit un peu d'argent à son bailleur. Malheureusement, ça arrive souvent. Surtout en ce moment, en voulant rentrer chez lui un jour, il est rentré, il a découvert que son bailleur, vous savez de quoi je parle, bien évidemment, il avait changé la serrure. Alors non seulement il avait changé la serrure, mais ce que nous écrit Serge, c'est qu'il a carrément mis toutes ses affaires sur le palier. Le choc, tu rentres chez toi, tu retrouves toutes tes affaires sur le palier. Quels sont les droits de Serge et que risque son bailleur s'il risque quelque chose ?
Alors, on est vraiment dans l'actualité, puisqu'on sait que les tribunaux connaissent un essor, d'autant plus avec la crise du Covid.
On a même eu un cas où le propriétaire avait muré la porte d'entrée.
Oui. Je suis pas surpris. Aujourd'hui, en fait, on arrive dans un état où le système judiciaire est complètement saturé de demandes. Les propriétaires, parfois, doivent attendre 2-3 ans avant de récupérer leurs biens. Il y a des propriétaires aussi qui sont en difficulté financière de ne plus toucher de loyer. Et, excusez-moi, il y a des gens qui pètent les plombs. Des propriétaires qui pètent les plombs. Et je préviens votre auditeur Serge, qu'évidemment, il a des droits très importants. Et je préviens et je mets en garde surtout les propriétaires bailleurs qui auraient dans l'idée, à terme, de se faire justice eux-mêmes, d'éviter cette option. Pourquoi ?
Il a pas le droit, on est d'accord.
Alors, évidemment, il n'a pas le droit.
De changer les serrures.
Non, il n'a pas le droit. Il y a évidemment des textes qui encadre tout ça. Le premier texte, c'est le code pénal. Voilà, c'est l'article 226-4 du code pénal qui interdit notamment et qui sanctionne ce qu'on appelle une voie de fait, puisqu'il s'agit d'une voie de fait. La personne, sans le consentement du locataire, a changé une serrure, est rentrée dans les lieux et a vidé les affaires. Que doit faire impérativement Serge tout de suite ? Il doit aller au commissariat ou à la gendarmerie pour évidemment déposer plainte. Le bailleur va être très probablement convoqué très rapidement au commissariat et on va lui rappeler notamment qu'il risque potentiellement 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Et il faut l'espérer, le bailleur retrouvera peut-être la raison et rendra les clés immédiatement à son locataire. Ça n'empêchera pas d'ailleurs qu'il y ait des poursuites pénales contre le propriétaire. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Dans le pire des scénarios, le bailleur décide, malgré sa convocation pénale, de ne pas rendre les clés. Et Serge, donc, est toujours à la rue. Que doit faire Serge ? Serge doit évidemment saisir un avocat très rapidement. Et Serge devra, grâce à son avocat, saisir le juge en urgence. C'est ce qu'on appelle un référé d'heure à heure, c'est-à-dire qu'on passe devant tout le monde pour faire court, compte tenu de la situation. Et à ce moment-là, le juge pourrait ordonner, sous astreinte financière journalière au bailleur, de réintégrer le locataire, outre le fait évidemment qu'il y aurait une réparation, là encore, du préjudice financier. Donc là encore, j'invite fortement, et après j'ai envie de vous dire, bon courage pour le propriétaire pour expulser même légalement cette personne qui a des impayés, parce que les magistrats seront très sensibles à la situation qu'a vécu ce locataire, et malgré les impayés, le bailleur aura beaucoup de difficultés à obtenir une expulsion légale par la suite. Donc, moralité de l'histoire, évitez ce genre d'écueil, vous aurez beaucoup plus de problèmes que de solutions.
C'est plus clair que ça, ce n'est pas possible. Donc, à bon entendeur, salut. Merci. Vous avez absolument raison. Merci à vous, Xavier, de
me
joindre. Je rappelle qu'on peut vous consulter aussi. Votre cabinet est dans le 16e arrondissement de Paris. Vous avez un site internet. Je peux donner l'adresse du site internet ?
Oui, bien sûr.
Voilà, www.demezoy-avocat.com.
Et alors, en plus, vous verrez sur mon site internet, vous aurez la possibilité de télécharger gratuitement un guide juridique du bailleur dans ses relations avec le locataire. Donc, typiquement, le cas que je viens de présenter là est dans ce petit guide que vous pouvez télécharger en PDF et imprimer. Et ça peut constituer un outil pour tous les bailleurs ou pour les locataires sur leurs droits.
Eh bien, n'hésitez
au quotidien.
Pas. À télécharger. Merci, Maître Demezoy. On vous retrouve dans un prochain numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On enchaîne tout de suite avec nos experts.
Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
And trouble in your brain. Anger you retain. Pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap. Your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble bust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you. Connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people.
Le grand rendez-vous de l'immobilier. Le grand témoin.
Hello les amis, on reprend effectivement cette deuxième partie des grands témoins, on va le dire, puisqu'ils sont deux sur le plateau. Et chaque mois, comme vous le savez, on approfondit un sujet particulier pour vous, les amis, et pour décrypter cette actualité qui est parfois un peu complexe au niveau de l'immobilier. Quand je vous dis, c'est l'élément central, il n'a échappé à personne d'ailleurs. Que la question du logement a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de mouvements de médias ces derniers temps. Voilà, après la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Alors, on est toujours avec nos deux invités. Alain Brosset, bonjour, merci d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur des stratégies et des relations interterritoriales à l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, et bien sûr Thierry Marchand, diagnostiqueur immobilier et aussi président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM. Guillaume, nous allons parler maintenant du DPE, on va dire une DPE revue, le fameux DPE.
Oui, et je vais m'adresser directement à vous, monsieur Marchand. Bah, la question, elle est simple. Hein. Depuis juillet, on a lancé un nouveau DPE. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça change vraiment, ce nouveau DPE.
Ouais, franchement, est-ce que c'est mieux ? Allez.
Alors, est-ce que ça change ? Oui, ça change sur la forme et sur le fond. Le DPE, c'est déjà un outil qui est à la disposition et qui est une obligation depuis 2006. Et ce nouveau DPE, finalement, c'est cinq nouveaux éléments importants. En premier lieu, avant le 1er juillet 2021, nous avions deux types de DPE pour un logement. Il y avait le DPE qui était nécessaire pour les logements construits avant 1948, qui donnait une expression de la consommation énergétique en fonction de l'usage des occupants, et non pas vis-à-vis de l'enveloppe thermique du bâtiment. Depuis le 1er juillet, on n'a maintenant qu'un seul DPE pour tous les logements, quel que soit l'âge de construction du bâtiment, et concerne tous ces bâtiments, tous ces logements, et prend en compte l'enveloppe énergétique du logement. Donc un DPE, c'est, on calcule thermiquement les déperditions des parois. Donc on parlait tout à l'heure de l'isolation, On va évidemment vérifier le type d'isolation, la nature de l'isolation, l'épaisseur de l'isolation. Donc on va tout calculer, la performance énergétique du logement finalement. Est-ce qu'il est très déperditif ou pas déperditif? On va également regarder le type de chauffage. Si on a un chauffage de nature à énergie fossile, j'en reviendrai plus tard pour énergie fossile, donc gaz, fuel, charbon, on n'utilise plus de charbon, et évidemment l'autre énergie qui est l'énergie électrique et les énergies renouvelables. Donc ça, le nouveau DPE finalement, c'est refaire les DPE précédemment. On a pris également en compte une nouvelle étiquette énergétique. Cette nouvelle étiquette énergétique prend précédemment, c'était simplement on classait un logement uniquement par rapport à la consommation énergétique. Aujourd'hui, on classe un logement par sa consommation énergétique et aussi par ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est tout nouveau. Donc, ça change complètement la classification du DPE que l'on a au 1er juillet par rapport à celui qu'on pouvait avoir au 30 juin. On n'a plus du tout les mêmes critères de calcul. Un point, donc pourquoi on prend en compte les gaz à effet de serre? Les gaz à effet de serre, on sanctionne quelque part les énergies fossiles, les moyens de production de chaleur à énergie fossile. Pourquoi? On s'est bien rendu compte qu'on est en réchauffement climatique, en dérèglement plutôt climatique.
Parce qu'ils émettent
du carbone. Ils émettent du carbone. On prélève également à la planète de l'énergie, du fuel, on prélève du gaz naturel. Donc ces énergies, il faut bien à un moment décarboner notre économie. On est dans cette histoire, dans cette philosophie de décarboner et pour permettre...
Sans impacter le confort dans l'habitat, on est d'accord?
Sans impacter le confort.
L'énergie renouvelable vient précisément remplacer, entre guillemets, j'utilise volontairement des mots pour que les gens comprennent, des énergies auxquelles nous étions habitués, c'est-à-dire le charbon à l'origine, le fuel et le gaz.
Oui.
On est d'accord.
Complètement. Donc, on est maintenant plutôt sur un axe d'énergie plutôt renouvelable. Okay, donc l'énergie électrique.
Du nucléaire.
Nucléaire, en partie, mais également tout ce qui concerne les pompes à chaleur, que ce soit de la géothermie ou de l'aérolique. On a besoin de plusieurs types de pompes à chaleur. On peut avoir des capteurs solaires pour en thermique.
La méthanisation, par exemple.
Méthanisation, peut utiliser pour l'habitat, mais.
Mais ça pourrait. Je veux dire, on en parle, etc. L'hydrogène
aussi, l'hydrogène commence à arriver. Enfin, ça fait déjà longtemps qu'il y a des projets sur l'hydrogène, mais ce sont évidemment des énergies qu'on va retrouver probablement dans l'habitat.
Donc le pari de l'habitat aujourd'hui, c'est d'essayer d'utiliser des énergies renouvelables. On a compris pourquoi, parce qu'il y a un impact carbone, mais qui n'est pas forcément lié à la qualité du confort dans l'habitat, je précise. Et donc c'est intéressant, c'est d'essayer de juguler les deux, parce qu'en fait c'est un double intérêt. Et comme les êtres humains sont tous les mêmes, ils voient d'abord leur intérêt personnel. Alors, quelles sont les conséquences de ce nouveau mode de calcul? Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu une première version du DPE, on peut le dire.
Oui.
Il y a eu une première version qui a été lancée au 1er juillet 2022. D'ailleurs, on a même publié ici, je ne sais pas sur Capital s'ils l'ont fait aussi de cette façon-là, on avait dit, voilà, enfin un DPE avec un pouvoir coercitif. Bon, c'était un peu fort, mais doté d'un instrument, en fait, notamment sur le principe de l'opposabilité, vous savez, du caractère opposable. Alors, il y a eu quelques soucis de calcul, j'aimerais bien qu'on y revienne pour bien positionner les choses. Bref, il a été retiré. Reformaté, 1er novembre, nouvelle version, avec un nouveau mode de calcul qui a intégré notamment des matériaux avant 1975, me semble-t-il. Alors, est-ce que, on va être très clair, on se pose la question avec Guillaume, est-ce que avec ce nouveau mode de calcul, y a-t-il des profils bien identifiés, on va dire des perdants et des gagnants, pour être très clair?
Alors, sur le nouveau DPE, qu'il soit du 1er juillet ou sorti version 1er juillet, version 1er novembre, finalement, la version 1er novembre, c'est uniquement un rééquilibrage sur certains types de biens construits avant 1975, qui étaient finalement souvent placés en F et G.
Qu'est-ce que vous appelez rééquilibrage? Juste qu'on comprenne.
Rééquilibrage, c'est-à-dire qu'il y avait quelques coefficients qui avaient été mis dans la nouvelle version, qui étaient un petit peu excessifs, et que lorsque l'on avait des biens qui pouvaient être isolés, et on ne pouvait pas les identifier comme isolés, donc on les mettait non isolés. Donc on a eu des logements classés en F et en G qui ne le méritaient pas.
Qui ont dégringolé, quoi.
Qui étaient dégradés.
Voilà.
Donc il a fallu rééquilibrer. Ce qui a été fait.
Pas être content, les proprios, là.
Non, pas trop, non. Donc on a pu rééquilibrer avec cette.
80 000, ça concernait 80 000 DPE quand même.
Oui, un peu plus de 80
000. Source
FNAIM. Oui. Bon. C'est un petit peu plus de 80 000, mais on s'est rendu compte que sur les passoires thermiques qu'on a détectées, on a à peu près 25% qui ont vu une note sensible, une amélioration sensible de leur note. néanmoins, au premier, ce nouveau DPE en tant que tel, aujourd'hui, a une grande différence par rapport au DPE qu'on connaît depuis 2006, c'est qu'il est opposable, tout simplement. Ce que signifie opposable, c'est qu'il est devenu un diagnostic comme les autres diagnostics que l'on fait dans le cadre de la vente d'un bien immobilier, que ce soit de l'amiante, de l'électricité.
On parlera de plus après, voilà. Les gagnants, les perdants.
Voilà, donc c'est...
C'est quoi, des exemples?
Non, oui, mais on veut savoir, mais oui.
Oublions-le, il y a le code 75, oui. C'est réglé. Mais bon. Grosso modo, ce nouveau système de calcul, il donne des gagnants, des perdants. Quelqu'un qui, par exemple, avec une chaudière performante...
Tout à fait. Donc, les perdants, c'est principalement les énergies fossiles, ceux qui utilisent des énergies fossiles, donc exemple. Le fuel. Le gaz naturel également.
Mais
le
c'est,
gaz...
pas, c'est pas une surprise, ça.
Non, mais pour les particuliers, c'est une surprise.
Non, mais des gens qui... Donnez-moi un exemple de logement qui était bien noté avant, qui devient mal noté après.
On a des cas particuliers sur des maisons avec des chaudières au gaz, qui étaient précédemment qui étaient classées, et qui sont toujours d'ailleurs classées en E, rarement en D, mais peut-être en D dans certains cas, et qui se voient avoir une classification bien moindre, bien moins bonne, par le gaz à effet de serre. Voilà. Parce que le gaz à effet de serre, l'effet de double clic sur les doubles tickets, fait que l'on peut avoir une note relativement acceptable en consommation énergétique, mais cette fois-ci
mais dégradé moins, en
gaz à effet de serre.
Donc ça, c'est vachement important à
dire. On le voit souvent sur le gaz naturel, c'est une chose que l'on... Et le gaz est également sur les propanes. Donc on a ce type de dégradation. Et à l'inverse, l'énergie électrique, on a évidemment une amélioration.
C'est bonifié.
Donc le bien est bien isolé.
Donc, vraiment qu'on comprenne, on peut avoir une consommation d'augmentation, une empreinte carbone minimum.
Oui. Mm-hmm.
Exemple, le coût de l'électricité qui s'envole. Et, à contrario, on peut avoir une chaudière fuel, par exemple, ou propane, qui est maîtrisée à la limite, qui serait plus économe. Par contre, ça explose l'empreinte carbone.
Complètement. C'est exactement ça.
Et ça dégrade la note, voilà, par rapport à l'ancien DPE.
Ça concerne beaucoup de maisons individuelles. On en a parlé ensemble.
Ça concerne énormément.
80% de maisons individuelles, vous m'aviez dit.
Oui, c'est absolument considérable, surtout dans les territoires. Dans les territoires ruraux, on n'a pas de gaz naturel. La seule solution, de toute façon...
Ça fait du boulot pour France Rénov', tout ça.
Vous faites travailler France
Rénov'. Non, mais...
Et puis c'est pas des gens qui ont beaucoup de moyens.
Parce qu'il va falloir changer beaucoup de chaudières.
Oui.
Non.
Et nous n'avons pas changé ces types de chaudières dans les années précédentes, puisqu'on n'a pas pu passer au gaz naturel. Quand vous êtes dans des lotissements en proximité de villes, on a pu changer.
En préparant cet entretien.
Investissez dans les chaudières.
En préparant cet entretien, vous m'avez aussi parlé
d'un nouveau fonds d'investissement dans la chaudière.
En préparant cet entretien, vous m'avez aussi parlé d'un effet sur les petits logements qui se retrouvent dégradés. Alors ça, c'est vachement intéressant si on peut l'expliquer simplement, parce que ça le mérite.
Principalement les petits logements en copropriété, enfin en immeuble collectif. Je n'utilise pas le mot copropriété, en immeuble collectif. Les petits logements, on a un souci, c'est que la consommation énergétique du nouveau DPE prend 5 usages. On a l'eau chaude, la production d'eau chaude, la production de chaleur, la production de refroidissement, l'éclairage et la ventilation. Et donc l'énergie nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire, et évidemment qu'on l'on soit une personne, que l'on soit dans une maison de 200 mètres carrés ou qu'on soit dans un appartement de 15 mètres carrés, on a grosso modo le même besoin d'eau chaude. Donc le souci que nous avons sur les petites surfaces, on est très souvent très mal noté, notamment dans les immeubles collectifs, de ce fait que la consommation énergétique est lourde pour l'eau chaude sanitaire. De plus, on utilise souvent des ballons d'eau chaude électriques qui sont, en termes de consommation énergétique, plus significatifs, puisqu'on sauve un volume d'eau.
Mais
alors que pour l'eau chaude produite par du gaz, on va produire généralement...
Sûr.
Au besoin.
Et donc alors comment on va faire pour régler le problème?
Il y a des Français, comme vous le savez, excusez-moi Guillaume, où on y a identifié, des statistiques sont éloquentes, quand il y a un décrochage du paiement des loyers par exemple, le premier poste de décrochage avant le loyer, c'est l'énergie. Ça vous le saviez peut-être?
Si je peux me permettre, c'est juste que ça. C'est effectivement, c'est un vrai sujet. C'est que on a besoin d'examiner l'ensemble du logement dans ces trois composantes d'isolation et de chauffage en l'occurrence. Et je répète qu'il y a aussi un sujet ventilation qui joue sur la performance globale. Effectivement, la façon de changer les systèmes de chauffe dans un immeuble collectif, notamment en copropriété, nécessite
site un travail d'accompagnement, ce qui est d'ailleurs prévu hein, dans les aides de l'agence, pour que l'assemblée en fait des copropriétaires puisse justement être accompagnée dans cette démarche, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe sur un logement individuel.
Mais vous voyez, il y a une incohérence quand même. Pardonnez-moi, mais on peut avoir un super outil qui permet de mesurer, d'avoir une empreinte carbone quasi nulle. Par contre, un coût énergétique qui est indépendant de cette émission à gaz à effet de serre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on voit bien que même sur des logements bien rénovés, il y a un envolé des coûts énergétiques. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est général en Europe. Et c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet, je vous le rappelle quand même, qui a mis les gens dans la rue, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, à cause de la hausse du carburant. C'est quoi la solution ? Parce que nous, voilà, on veut tous décarboner, mais on n'a pas envie de payer une fortune 10%
il
de son
faut
revenu.
La meilleure solution, la solution la plus simple, c'est de moins consommer. Le DPE est un outil qui aujourd'hui donne véritablement une vision globale
du logement. Thierry Marchand, c'est quoi moins consommer ?
À moins consommer,
moins
c'est
prendre d'eau chaude,
moins produire d'eau chaude. Pour moins produire d'eau chaude, il faut vérifier que les réseaux de distribution soient bien isolés. En copropriété, on parle de la copropriété. Quand on sait que le réseau de distribution de l'eau chaude sanitaire collectif, s'il n'est pas isolé, mais ça plombe la note énergétique du DPE, alors que le pauvre particulier qui est copropriétaire, lui, n'y est pour rien, puisque c'est l'ensemble de la copropriété qui est responsable. Quand vous avez dans un immeuble collectif, moi je vis en région un peu estivale, on va dire, quand vous avez 20% des personnes qui sont des personnes qui vivent au quotidien dans les logements et qui sont propriétaires de leurs biens, et que les autres, ce sont soit des logements résidents secondaires ou des logements occupés par des locataires, il est certain que motiver les propriétaires, c'est pas vous qui me dites, le contraire, motiver les propriétaires à faire des travaux et veiller à la bonne isolation des réseaux, à veiller à la pertinence des moyens de chauffage, c'est énorme. Et expliquer à une copropriété que demain, il faut passer à des outils, à des moyens de production utilisant des énergies renouvelables, c'est énorme. On est déjà encore sur du fioul. On n'est même pas passé au gaz dans certains cas. Encore moins à l'électricité. Il va falloir qu'on passe du fioul à l'énergie renouvelable. Le saut, il est colossal.
Mais on passe d'un État féodal à une démocratie collective.
Tout à fait.
On va y rester dans le pratique. Est-ce que c'est compliqué de trouver un diagnostiqueur correctement formé au niveau dispositif ? Parce que quand on interroge les gens, franchement, dans la profession, ça s'organise. Hein. D'ailleurs, vous avez construit la chambre dans ce sens-là. Alors, Thierry Marchand, qu'est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs pour déterminer les bons critères et choisir un bon diagnostiqueur dûment formé.
Il faut déjà que le
qu'ils soient adhérents à la finalité.
Et déjà, est-ce qu'ils sont tous formés à ce jour
au DPE ? Ils sont tous formés au DPE, parce que le DPE aujourd'hui qui est pratiqué est le même sur un point de vue de méthodologie que celui qui était fait en 2012. Donc on n'a rien changé sur la méthodologie. Par contre, on a changé surtout sous l'outil de saisie des données. Parce qu'on a beaucoup plus de données à rentrer. On sait les identifier et les saisir. Donc il y a un travail qui est beaucoup plus important. Donc là, il y a une formation à faire sur les outils. La plupart des diagnostiqueurs ont fait ce travail, heureusement. On a veillé que beaucoup de gens puissent le faire. Les outils ont dû être mis à jour. Ça a été un des souhaits du gouvernement de rééquilibrer le DPE au 1er novembre. Donc les diagnostiqueurs aujourd'hui le sont. Alors, comme toute profession, la grande majorité des professionnels sont extrêmement efficaces et pertinents. Le souci que l'on a, c'est que nous devons avoir un maximum d'informations sur le bien. Et le diagnostiqueur ne peut pas regarder, n'a pas des yeux à rayon X pour vérifier ce qu'il y a dans les murs. Donc on a absolument besoin de savoir ce qu'il y a été isolé dans les murs, s'il y a de l'isolation. Alors comme je vois tout à l'heure, les personnes qui ont été interviewées se rendent compte que l'isolation n'était pas un élément important. Alors allez leur demander si le bien a été isolé ou pas isolé. Lorsque c'est une succession, ils ne le savent pas. Quand c'est une acquisition, souvent, ils ne savent pas si le bien a été isolé précédemment. Donc nous, on ne peut pas le deviner et on a l'obligation de mettre le vrai type d'isolant. Si on n'a pas l'information de l'isolant, comme on ne peut pas faire de sondage, eh bien, on met que le bien n'est pas isolé.
Deux questions. C'est quoi la certification qu'ils doivent avoir ?
Avoir une certification énergie, ce qu'on appelle certification énergie.
D'accord. Deuxième question, combien ça coûte tout ça?
Un DPE, ça vaut en fonction des biens, mais ça peut atteindre normalement 200 euros. C'est aujourd'hui un travail beaucoup plus important que précédemment, puisque tout doit être mesuré. Les surfaces du bâti, c'est-à-dire les surfaces habitables. Déjà, il faut définir la base. Qu'est-ce qu'une véritable surface habitable? C'est l'essentiel, c'est fondamental. Et l'acquéreur, le propriétaire ne peut pas nous donner la surface habitable. On doit le mesurer. Donc rien que ça, déjà, on passe du temps. Mesurer les parois, mesurer les fenêtres. Je rappelle qu'il y a 14 points de contrôle par fenêtre. 14 points de contrôle. Ouais. Donc, quand c'est les mêmes fenêtres, ça va
200
vite.
Mais... euros,
200 euros, ça paraît pas cher pour tout ça.
Oui, voilà, c'est la première question. 200 euros, prix moyen.
Prix moyen.
Prix moyen, donc ça peut être une maison.
Une maison individuelle de 120 mètres carrés, c'est 200 euros.
Mais combien de temps il passe, le diagnostiqueur?
Un DPE, lorsque la maison est homogène, c'est une heure pour le DPE.
Une heure, et après, il y a le compte-rendu.
Ça va relativement vite, mais après, on a d'autres diagnostics. Ce qui est intéressant, c'est que l'on fait l'ensemble des diagnostics au même moment.
Ça me semble pas élevé.
Une maison de 120 mètres carrés, c'est 200 euros.
Oui, 200 euros. Quand la maison, elle est homogène.
120 mètres carrés.
Et un appartement?
Un appartement, après, ça dépend de la taille de l'appartement. Le souci qu'on a en appartement, c'est pas l'appartement lui-même. C'est le nouveau travail qu'on vient d'avoir. C'est de récolter les données auprès du syndic. Et ça, on les a pas.
Bah oui, bien sûr.
Et on a en plus beaucoup d'autres données à rajouter. On doit récupérer la taxe d'habitation pour reconnaître un invariant fiscal. On doit récupérer un travail documentaire qui n'est plus un travail lié à son quotidien.
Et là, vous avez des honoraires plus élevés ou pas pour ces travaux de recherche ou pas?
Pour l'instant, c'est forfaitaire.
C'est pas le propriétaire qui doit vous fournir ça.
Si. Okay. Il faut le sensibiliser.
Est-ce que le prix est normalisé? C'est-à-dire que c'est...
On est en France, les tarifs sont libres.
Ok, d'accord.
On garde en tête ce 200 euros pour 120 mètres carrés.
Ok. Alors, à compter de septembre prochain, on enchaîne. Tout propriétaire mettant en vente une maison ou un immeuble en monopropriété d'étiquette F ou G devra obligatoirement faire réaliser un audit énergétique de son bien, en plus du diagnostic de performance énergétique DPE. C'est quoi? C'est le DTG? C'est quoi?
Le DTG.
Un DPE et un audit.
C'est un audit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est obligatoire.
Sera obligatoire au 1er septembre 2022.
Les maisons, quoi, en fait, grosso modo.
Maisons, et puis surtout les immeubles collectifs en monopropriété, on oublie, mais on en a quand même pas
beaucoup,
mal.
Beaucoup en province. Absolument, vous avez raison.
Beaucoup, il y en a même en région parisienne. On les voit peu, mais ils existent. Ces immeubles devront faire l'objet d'un audit énergétique. Qu'est-ce qu'un audit énergétique? Surtout, l'audit énergétique est le début du commencement de l'accompagnement.
Et on boucle la
boucle. L'idée, c'est d'identifier le coût nécessaire.
C'est préalable au DPE? Non.
Ah non, au contraire. C'est le DPE qui va déclencher l'obligation de faire un audit ou pas. Et non pas le contraire.
Si je suis F ou G.
Si je suis F ou G, si je suis E, finalement, je n'ai pas besoin d'audit. Si je suis F ou G, j'ai besoin de faire un audit.
D'accord.
Et si j'ai besoin de faire un audit, donc on demande à un professionnel qualifié pour faire un audit, et cet audit énergétique va déterminer le chantier que l'on doit faire de la rénovation énergétique pour atteindre la classification B. Le but est d'atteindre le B.
Alors, il y a combien de lettres? 7 lettres, hein?
A, B, C, D, E, F, G.
D'accord, ok. Alors, on a l'habitude de faire des reportages. Et là, du coup, on est allé consulter un professionnel de l'immobilier que vous connaissez bien, parce qu'il s'agit de Jean-Marc Torollion. Alors, on a réalisé justement ce reportage pour ce 36e numéro, Guillaume.
Oui, on était voir Jean-Marc Torollion pour lui demander s'il était possible
d'améliorer
le dispositif de Normandie, selon lui, qui, 2 ans après, ne montre pas des signes fracassants en termes d'adhésion, si je peux le dire ainsi, et on l'écoute.
Et on réagira tout de suite en preuve.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le reportage.
Le dispositif fiscal de Normandie était censé encourager les particuliers à investir dans des passoires thermiques pour les rénover. Quel bilan faites-vous?
Ce dispositif fiscal de Normandie, il avait une caractéristique, il s'adressait d'abord au marché de l'ancien, et de ce point de vue-là, c'était pour nous extrêmement positif. Force est de constater qu'au terme des 3 années que ce dispositif est applicable, et il a d'ailleurs évolué dans le temps, il n'a pas rencontré son public. Il n'a pas rencontré son public alors même que, de notre point de vue, il avait quand même une certaine pertinence. Et c'est un dispositif qui, malgré tout, de notre point de vue, mérite encore beaucoup d'intérêt.
Quelles sont les limites de ce dispositif?
La première chose, c'est qu'il était circonscrit à 222 villes et à des villes qui également bénéficiaient d'une opération de revitalisation. Et force est de constater que cette cartographie et cette limitation à certains centres-villes a engendré une pénurie d'offres. l'offre, on n'est pas arrivé à la générer. Il y avait également une forme de complexité dans la mise en œuvre. Il fallait un quota de travaux qui, d'ailleurs, dans leur nature, ont changé en cours de route. Et il fallait que cela représente 25% du prix de revient de ces logements. Donc, je pense qu'on a, on n'avait pas suffisamment de périmètre étendu pour pouvoir générer une offre suffisante et accessible, sachant que cette offre était un peu complexe à constituer.
Que faudrait-il faire pour encourager davantage d'investisseurs particuliers à rénover des passoires thermiques ?
Moi, je pense que le De Normandie, dans l'ancien, il est tout à fait pertinent avec les nouvelles obligations résultant de la loi Climat et Résilience. Parce qu'il faut bien comprendre que les logements F et G dans le parc privé locatif vont être demain interdits à la location. En 2025 pour les G, en 2028 pour les F. Une partie des bailleurs vont pouvoir faire les travaux. Une partie des bailleurs ne le feront pas et vont désinvestir. Eh bien, ces logements-là, il ne faut pas les perdre dans le parc privé locatif parce qu'on n'aura pas les moyens de reconstituer cette perte-là. Profitons à ce moment-là de Climat et Résilience pour que le De Normandie dans l'ancien permette aux investisseurs qui vont racheter ces biens-là de les maintenir dans le parc privé locatif, de les maintenir en les rachetant en état futur de rénovation énergétique, permettant ainsi plusieurs choses, remettre sur le marché des logements de qualité, les remettre d'une façon diversifiée dans l'ensemble de nos villes et en plus à des loyers maîtrisés. Donc, j'ai envie de dire que tirons les leçons du passé, mais véritablement ce dispositif fiscal qui est le seul à s'adresser au logement ancien dont on sait qu'il est demain un enjeu exceptionnel, eh bien, il va trouver sa pertinence et c'est le moment de le maintenir et j'allais dire d'élargir donc son périmètre à la France entière, circonscrit aux logements F et G qui seraient revendus par des propriétaires bailleurs qui ne voudraient pas faire les travaux.
Une réaction, Thierry Marchand.
Je dirais que M. Thorollion a tout expliqué, a tout détecté la problématique aujourd'hui de la rénovation.
Parce
que ce
qu'il dit clairement, un tiers ou peut-être plus des propriétaires ne feront pas les travaux. Et pour lui, c'est une perte dans l'offre locative quand on sait qu'aujourd'hui, l'offre de location a été divisée par deux dans les deux dernières années.
Oui. Les propriétaires ne feront pas de travaux pour un bon tiers. Pour tout simplement parce que ça demande des démarches. Ça demande d'avoir confiance aux entreprises qui interviennent, que ce soit l'usine au Sicœur ou l'artisan. Il faut, aujourd'hui, on a besoin de confiance. Et donc, comme il faut suivre, il faut être sûr que les travaux que l'on a engagés soient bien réalisés. D'ailleurs, France Rénov, c'est toute la démarche de l'accompagnateur aussi, de vérifier de donner cette confiance. Et cette confiance, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, les personnes souhaitent plutôt vendre leurs biens et laisser cette démarche de développement, de travaux
c'est
à l'acquéreur.
Vous confirmez Alain Brosset ? Ça ne vous étonne pas, hein ?
Alors, ce qui ne m'étonne pas, c'est le diagnostic qui vient d'être fait, la situation qui est rencontrée. Après, il y a quand même deux, trois compléments. Le premier, c'est qu'effectivement, France Rénov, en place depuis le 1er janvier, est justement là pour accompagner les personnes et leur apporter ces éléments de confiance, d'information, de conseil, d'orientation. Et donc, ça va répondre aussi aux demandes, justement, de ces bailleurs concernés par le type de logement dont on vient de parler. Les aides en matière de rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov, ont connu quand même un succès important. L'ANA a permis la rénovation de plus de 750 000 logements, quand même, sur l'année 2021.
Je rappelle qu'elle est ouverte aux bailleurs aussi.
Elle est ouverte aux bailleurs depuis le 1er juillet 2021.
Ouverte à la copropriété.
Et aux copropriétés. MaPrimeRénov, copropriété. Et elle est aussi, on peut aussi se le redire, elle est essentiellement une aide qui, pour deux tiers du public bénéficiaire, concerne des publics modestes et très modestes. Donc, il y a quand même un mouvement, un succès, il y a un dispositif d'aide qui vient accompagner
gros volume aussi, il faut le rappeler, sur les maisons individuelles. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous, Alain Brosset, directeur des stratégies des relations territoriales à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Je rappelle qu'on peut le retrouver aussi sur le site internet, c'est monprojet.ana.gouv.fr. On retrouve le site.
France Rénov.gouv.fr.
C'est le bon clic à faire. Qu'on retrouve d'ailleurs sur les délégations, on va dire, territoriales aussi, bien évidemment, puisque fort ancrage territorial. À vous, Thierry Marchand. Merci, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNIM. On va vous retrouver sur www.fnim-diagnostic avec un C. FinaIEMS.com. Voilà, c'est le bon réflexe quand on veut trouver un bon diagnostiqueur. C'est vrai que le fait d'être FinaIEMS garantit aussi
tout à fait
la qualité du dispositif.
Nous veillons à la qualité de nos adhérents.
D'ailleurs, on se retrouvera d'ailleurs normalement très bientôt puisque nous allons lancer une nouvelle collection sur le diagnostic, très important puisque c'est la pierre angulaire effectivement à la fois de l'achat mais aussi de l'allocation. Compte tenu de l'offre faible de logement aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire. Voilà, on va enchaîner sur la suite de notre programme. Merci, ne zappez pas.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement.
Eh bien, il est l'heure de retrouver effectivement l'Agence nationale d'information pour le logement, car chaque mois, on vous donne des informations très précises dans ce grand rendez-vous de l'immobilier, accompagné de Roselyne Conan, sa directrice générale. Nous allons parler de Loc Avantage, c'est le nouveau nom du dispositif loué abordable. Il n'y a pas que le nom qui a changé, beaucoup d'autres choses. Bonjour Roselyne.
Oui, bonjour messieurs. Oui, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau dispositif fiscal qui a été mis en place par la loi de finances pour 2022, donc qui permet déjà d'ailleurs, puisque c'est ouvert depuis le 1er janvier 2022, qui permet donc aux propriétaires bailleurs qui proposent un logement à un loyer donc inférieur à celui du marché local et à un locataire donc, qui a des revenus modestes, de bénéficier d'une réduction d'impôt proportionnelle au rabais qui est pratiqué. Donc, il est baptisé Loc Avantage et il remplace le dispositif loué abordable qui continuera effectivement à coexister tant que les propriétaires souhaiteront le poursuivre. Et donc, ces évolutions qui ont été apportées à Loc Avantage ont deux objectifs, c'est-à-dire rendre le dispositif plus lisible, mais surtout beaucoup plus attractif. Alors, peut-être un bref rappel historique pour vous dire comment sont apparus ces dispositifs fiscaux et pourquoi ils évoluent. Donc, rappelez tout d'abord que louer abordable existe depuis le 1er janvier 2017 et que c'est vraiment un choix de mettre en place cette incitation fiscale pour la mise en location du parc locatif privé à loyer modéré. Et donc le bailleur, lui, va signer une convention avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, s'engager à louer le logement et il bénéficie avec loyer abordable d'une déduction, d'un abattement de 15 à 85% sur ses revenus fiscaux. Et donc ceci en fonction, donc les conditions variaient en fonction de la zone géographique et du niveau de loyer qui a été choisi. Donc aujourd'hui, donc les ressources du locataire, comme c'était déjà le cas avec loyer abordable, donc restent plafonnées cette déduction forfaitaire qui était appliquée sur les loyers perçus devient en fait est transformée en une réduction d'impôt, c'est-à-dire qu'on va déduire du montant de l'impôt payé par le bailleur une certaine somme. Donc c'est là tout l'avantage du dispositif. Alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? Quelles sont les obligations finalement pour ce bailleur? Alors le bailleur, comme précédemment, il devra donc louer un bien non meublé, donc location vide, pour une durée minimale de 6 ans et signer une convention avec l'ANA comme précédemment. Et puis, comme je l'expliquais, il ne devra pas dépasser un loyer maximum, donc on verra comment il est défini, et le louer en tant que résidence principale avec avec des locataires, des ménages qui auront des ressources qui seront plafonnées. Donc, la particularité, c'est ne pas pouvoir louer effectivement à un membre de sa famille. Donc, on devra louer à un locataire qui ne fait pas partie donc, de la famille du bailleur. Donc, les plafonds de loyer, les plafonds de ressources sont déjà, d'ores et déjà accessibles et disponibles sur le site de l'ANA. Donc, vous pouvez déjà aller vous renseigner et voir quels sont les niveaux qui sont applicables sur le territoire où, voilà, en tant que bailleur, vous envisagez d'investir. Et plus la zone est tendue, effectivement, plus le plafond de ressources sera élevé. Et le plafond de loyer, il va être calculé, il va être défini par commune, tout d'abord, et à partir de deux bases auxquelles, effectivement, on applique une décote, donc entre 15 et 45%. Alors, ces deux bases de données, donc on a soit les données qui sont produites par les observatoires locaux des loyers, si la métropole en est pourvue, donc l'ANIL, je le rappelle, joue le rôle de centre de traitement et d'animateur ou d'animatrice du réseau des observatoires locaux des loyers. Et si le territoire n'est pas couvert par un observatoire, on fera appel aux données qui sont publiées dans la carte des loyers, qui est publiée par le ministère du Logement. Donc notre propriétaire qui souhaitent mettre en location un logement et bénéficier de cet avantage fiscal, il aura le choix entre trois niveaux de loyer, alors qu'on appelle LOC 1, LOC 2 et LOC 3. Et le choix sera déterminant puisque ça va définir le niveau de loyer applicable et bien sûr le taux de réduction, la réduction d'impôt effectivement qui va s'appliquer. Donc, bien évidemment, plus le loyer il est réduit, plus l'avantage fiscal il est intéressant. Donc, en fait, le taux de réduction, il va de 15 à 65%. Donc, pour le LOC 1, on est sur 15% qui passera à 20% lorsque le propriétaire fait appel à un tiers pour faire de l'intermédiation locative. Je vais y revenir pour vous rappeler ce que c'est que l'intermédiation locative. On sera à 35% en LOC 2, passant à 40% en cas d'intermédiation locative. Et le LOC 3, c'est 65% avec systématiquement appel à un acteur de l'intermédiation locative. Parce que pour mémoire, donc l'intermédiation locative, elle peut se matérialiser sur deux formes. C'est-à-dire soit on confie la gestion, un mandat de gestion à une agence immobilière à vocation sociale, et donc elle va accompagner le bailleur et le locataire tout au long du parcours locatif. Elle va sécuriser donc cette gestion locative. Soit on loue à une association qui est agréée par l'État, qui elle-même va sous-louer à un locataire et garantir bien évidemment le paiement du loyer et des charges. Donc cette sous-location visera des publics qui sont en difficulté avec donc une première marche à monter avant de trouver et d'aller vers un logement plus autonome. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la plateforme de dépôt de l'ANAH pour pouvoir déposer sa convention, faire sa démarche, donc ne sera ouverte qu'au 1er avril 2022. Mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà signer un contrat de location avec un locataire en respectant les plafonds de loyer que j'ai évoqués et les plafonds de ressources pour les locataires depuis le 1er janvier 2022. Donc vous déposerez après votre dossier auprès de l'ANAH à partir du 1er avril. Et bien évidemment, là, le dispositif fiscal s'appliquera depuis la prise d'effet du bail. Ce qu'il faut savoir et garder en tête, c'est que l'avantage fiscal, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que l'avantage fiscal, il va pouvoir se cumuler avec d'autres aides. Vous aurez des aides complémentaires, notamment, vous pouvez bénéficier des aides pour réaliser vos travaux d'amélioration. Il y a des primes spécifiques qui sont octroyées en cas d'intermédiation locative jusqu'à 3 000 euros. Si vous faites de l'intermédiation avec mandat de gestion pour un appartement de moins de 40 mètres carrés. Et en plus de tout ça, vous pouvez mobiliser l'éco-prêt à taux zéro, vous pouvez mobiliser un prêt avance rénovation et aussi à signaler le dispositif loué pour emploi. Loué pour l'emploi qui est porté donc par Action Logement avec en combinant Visale et d'autres aides complémentaires. Donc tout ça résumé, c'est un dispositif donc gagnant-gagnant pour le propriétaire et pour le locataire. Pour vous y retrouver donc sur l'ensemble des aides, pour vous expliquer comment vous y prendre, n'hésitez pas à solliciter votre ADIL local, votre agence départementale d'information sur le logement, qui pourra répondre à toutes vos questions, qu'elles soient fiscales, financières, travaux, et plus globalement, vous expliquer, vous guider dans l'économie, effectivement, de cette opération.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'immo, avec Orpi.
Eh bien, rebonjour les amis. Et oui, on vous l'avait promis, 36e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Ça fait déjà 4 ans et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est votre séquence préférée puisqu'on donne la parole, comme vous le savez, aux agents immobiliers qui sont sur le terrain tous les jours. C'est la séquence de Droit dans l'Immo avec Orpi et je ne vais pas bouder mon plaisir car j'ai le plaisir. Il est en duplex avec nous d'accueillir le président d'Orpi France, Guillaume Martineau. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sylvain.
Merci d'avoir accepté ce droit dans l'IMO, Guillaume. J'espère que vous viendrez régulièrement pour cette séquence. Droit dans l'IMO, on répond à vos questions. Et sur le Club des Proprios, page Facebook de Radio IMO et la page Facebook de Capital, c'est les questions que vous posez auxquelles on va vous répondre. Guillaume, vous avez la particularité d'être président d'Orpi France. Vous êtes arrivé aux affaires début janvier. On est ravis pour vous. Vous êtes avant tout un agent immobilier, un professionnel en activité. Moi, j'ai envie de vous poser cette première question. Vous savez que le thème de cette émission, c'est la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet dans notre pays. Quelle est votre analyse sur ce nouveau DPE, vous savez, qui a été revu et corrigé depuis le 1er novembre ?
Et ce nouveau DPE va avoir un véritable impact sur la valeur des biens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les DPE étaient regardés, mais n'étaient pas déterminants. Et là, ce DPE nouvelle mouture va véritablement donner une valeur. En tout cas, on sera obligé d'y faire beaucoup plus attention qu'avant. Donc, ça va être une nouvelle façon d'estimer aussi nos biens et nos conseillers immobiliers, parce que vous le disiez, j'exerce encore, et on le voit bien, nos conseillers sont sensibilisés, prennent conscience que ça va changer la donne.
Alors justement, est-ce que, c'est ma deuxième question, est-ce que le calendrier fixé par Emmanuel Wargon, qui a d'ailleurs participé à notre émission, vous paraît trop contraignant en termes de délai? Parce que si je fais le calcul... Quand on voit, par exemple, à l'échéance de 2025, 2028, 2034, retrait des lettres F et G du marché locatif privé, quand on sait qu'il y a une très forte demande et que l'offre est de plus en plus tendue, la question que j'ai envie de vous poser au président du premier réseau immobilier français, c'est où est-ce qu'on va loger les Français, Guillaume ?
Ça, j'aimerais bien le savoir, Sylvain, mais sur la question du calendrier... On trouve évidemment que c'est toujours très contraignant, mais comme à chaque nouvelle loi, donc je crois qu'on va être obligé de s'adapter. De toute façon, c'est là, ça existe, donc il n'y a pas à tortiller, il faut s'en emparer. Moi, je crois que tout l'enjeu, ça va être de faire prendre conscience aux gens de la nécessité de faire les travaux, d'expliquer pourquoi c'est bon. On pourra pas reculer. Donc, on va loger les Français. J'espère sincèrement qu'on va arriver à leur trouver tous un logement. Enfin, tous, c'est difficile, mais il y a une grosse demande. Et ce nouveau DPE remettra peut-être ces nouvelles dispositions énergétiques vont peut-être remettre des biens sur le marché qui n'existaient pas. Donc, on s'adaptera, comme on sait le faire d'ailleurs chez Orpi depuis des années. Et puis voilà, en avant.
Alors, la question, justement, pour l'accompagnement, je sais que vous êtes très soucieux, Guillaume, de l'accompagnement de vos clients dans leur parcours résidentiel. Vous avez là aussi la particularité dans votre réseau de pratiquer toute la chaîne des métiers, syndic de copropriété, administrateur de biens et transactionnaire. Vous avez vu, au 1er janvier 2022, il y a un nouveau portail qui s'appelle France Rénovation, qui réunit en fait l'ensemble des dispositifs. Et la ministre Emmanuelle Wargon a mis en place ce qu'on appelle l'accompagnateur Rénov, pour accompagner les bailleurs, pour accompagner les propriétaires occupants, mais aussi à l'échelle des copropriétés. Vous qui avez effectivement, qui êtes sur le terrain en permanence, dans le réseau, mais aussi dans votre agence, comment ça se passe pour l'accompagnement? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent pour être le mieux accompagné? Parce que quand on pose la question à des primo-accédants, à des personnes qui sont aujourd'hui bailleurs depuis plusieurs années, ben on a l'impression qu'ils nagent un peu dans la complexité administrative, pour tout dire.
Eh ben, je crois qu'on nage avec eux, parce qu'en fait, les dispositifs existent certainement, mais il y a un problème de pédagogie, de prise en main. On n'est pas informé autant que ça dans les agences. Je crois d'ailleurs que ça va être tout l'enjeu pour notre réseau, mais comme pour les autres réseaux, d'ailleurs comme pour tous les professionnels, c'est comment faire en sorte que nos propres conseillers s'emparent bien de la connaissance des sujets dont vous parliez. L'accompagnateur Rénov, je ne l'ai pas vu, je voudrais bien qu'il vienne m'accompagner un petit peu, en tout cas un peu plus. Je fais un peu d'humour, de mauvais humour, mais ça reste confidentiel. On n'est pas assez, je pense que les professionnels devraient être plus impliqués là-dedans. En tout cas, on devrait avoir beaucoup plus d'aide pour pouvoir retransmettre au sein des agences des messages vidéo, des webinars pour expliquer comment ça fonctionne. Alors, on va s'y mettre inévitablement, mais si on veut s'en emparer vite et que ça devienne pas, qu'on critique pas pour le plaisir de critiquer, ce que trop souvent on fait en France, c'est que il faut aussi que les pouvoirs publics nous aident à transmettre ces informations, que ça soit pas confidentiel ou en tout cas trop technocratique. On doit avoir un langage de simplicité, d'expliquer comment ça fonctionne. Un peu, vous savez, moi je suis de la génération de Michel Chevalet, je le vois encore nous expliquer comment ça marche. Et bien moi, je voudrais bien que l'accompagnateur Rénov vienne m'expliquer comment ça marche pour que je puisse l'expliquer à mes clients.
Merci beaucoup, Guillaume. Alors justement, j'ai une toute dernière question. Vous accompagnez vos clients tous les jours, administrateurs de biens, vous gérez leurs biens, vous êtes syndic de copropriété. Si je vous demandais, si je vous disais, qu'est-ce que vous conseilleriez là tout de suite un petit propriétaire bailleur ou quelqu'un qui veut faire son projet immobilier sur cette question cruciale de la transition énergétique, à quoi il faudrait qu'il fasse attention lorsqu'il pousse le portail d'une agence, quels seraient les conseils que vous lui donneriez ?
De faire un audit énergétique qui n'est pas encore obligatoire, mais je lui conseillerais d'abord d'écouter le professionnel qu'il a en face de lui et surtout de ne pas avoir peur de faire cet audit pour savoir ce qui doit être fait, rénové, d'anticiper surtout, de ne pas attendre le moment, de ne pas se dire « tiens, je mets en vente la semaine prochaine, qu'est-ce que je dois faire ?» Un projet immobilier, ça se mûrit, on sait à peu près, on a une idée de la période à laquelle on veut déménager. Donc surtout d'anticiper, parce que la plupart des entreprises actuellement, des artisans qu'on rencontre sur le terrain sont surbookés. Donc moi, je leur conseille, en tout cas dans notre agence, de faire appel à des professionnels du bâtiment, des professionnels de l'immobilier, pour anticiper le plus possible ces travaux.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Anticipation, mesdames et messieurs, et prévention. Et pour cela, choisissez les experts, agents immobiliers, ceux qui vous accompagnent, les artisans et les agents immobiliers. D'ailleurs, propriétaires, bailleurs que vous êtes, ils vous accompagnent aussi au quotidien. On le voit d'ailleurs parce que vous leur faites de plus en plus confiance. Merci beaucoup pour cette séquence de Droit dans l'Immo avec Orpi. Merci, Guillaume Martineau.
Merci Sylvain, à bientôt.
J'espère que vous aurez l'occasion de venir directement sur le plateau qu'on vous voit pour cette séquence Droit dans l'Immo. On parlera notamment, les amis, dans les semaines qui viennent, de maisons individuelles, de vos projets au printemps avec la décrudescence de cette crise sanitaire. Et on en est très heureux aussi pour vous. Voilà, n'hésitez pas, les questions, vous les posez sur le club des proprios, sur la page Facebook de Radio Immo et de Capital. On vous dit au mois prochain et on enchaîne avec les rubriques qui vous concernent. C'est ça vous concerne. À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Hello les amis, toujours avec vous et dans ce 36e numéro, dernier rendez-vous de ça vous concerne avec nos experts. Et c'est maintenant le cas d'un notaire, maître Benoît Morel est avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Une première question Guillaume sur le groupe Facebook.
Oui, Liliane du groupe Facebook, le club des proprios s'apprête à acquérir un local commercial qu'elle souhaite transformer en logement. Quelles sont les démarches que Liliane doit prévoir ?
Ouais, c'est une bonne question. On voit souvent le cas inverse, notamment à Paris, où on essaye de transformer du logement en commerce ou en hébergement hôtelier. Dans le sens où veut le faire Liliane, c'est plus simple, puisque elle va créer du logement, qui est plutôt une bonne chose pour le logement. Et donc, il y a des facilités. Effectivement, ça va dépendre uniquement de la typologie des travaux qu'elle va faire. Si elle modifie la façade, elle sera plus sur une autorisation un peu plus lourde, un permis de construire à déposer. Si elle ne modifie pas la façade, qu'elle garde l'extérieur, qu'elle modifie juste l'intérieur, là, elle sera sur une déclaration préalable avec un délai d'instruction d'un mois, une démarche assez légère. Et il faut quand même qu'elle pense à vérifier dans le règlement de copropriété si c'est quelque chose qui est autorisé dans sa copropriété.
C'est une demande de changement d'usage, c'est quoi concrètement ?
Alors, sur la copropriété, elle peut demander une confirmation au syndic, tout bêtement. Le changement, tu as deux choses, effectivement, qui sont importantes. Mmh. Tu as dissocié le changement d'usage et le changement de destination. Mmh. Si elle n'est pas à Paris ou en région parisienne, la question de l'usage ne se posera pas, puisque c'est uniquement contrôlé dans les grandes métropoles de plus de 200 000 habitants, etc. Et dans ce cas-là, elle aura juste l'urbanisme, la question de la destination à changer, et donc obtenir une autorisation d'urbanisme auprès de la mairie.
D'accord.
Et donc, il faut qu'elle se rapproche ou d'un architecte pour déposer soit le permis de construire, soit de la déclaration préalable si elle ne modifie pas la façade extérieure.
D'accord.
Ouais. Alors, c'est très clair. Merci pour vous, Liliane.
Et la petite astuce.
On est preneur.
Une astuce. Parce que là, on est dans un local commercial qui va devenir du logement.
C'est ça.
Si elle est dans le cadre du problématique d'usage, c'est-à-dire que si elle est dans une ville de plus de 200 000 habitants ou en région parisienne, elle va pouvoir vendre assez cher, ce qu'on appelle la commercialité de son local commercial, puisque étant commercial et qui va devenir un logement.
Et à qui elle vend ça alors ?
Elle vend ça en fait à des personnes qui sont en train de faire le cheminement inverse, qui ont du logement et qui veulent le transformer en commerce ou en hébergement hôtelier. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très prisé. Vous avez très peu de spécialistes, d'ailleurs ça peut être le sujet d'une émission, de spécialistes qui s'occupent de la transaction de commercialité. Vous avez à peu près deux professionnels sur Paris qui connaissent bien le sujet et qui mettent en relation ceux qui cherchent de la commercialité et ceux qui la vendent. Et sur certains arrondissements, notamment dans le 8e arrondissement, vous pouvez avoir un prix qui varie entre 2 et 4 000 euros du mètre carré.
Ah oui, quand même.
Ouais. Donc, si elle a 100 mètres carrés, elle va toucher entre 200 et 400 000 euros.
Liliane, j'espère qu'elle va nous écouter.
De plus.
Ah oui, quand même, c'est pas neutre. Ça, c'est une astuce et je pense que l'idée d'une émission me paraît tout à fait adaptée.
Très intéressant.
Alors, Liliane, merci en tout cas d'avoir posté cette question. Martine, du groupe Facebook du Club des Proprios, loue une maison sur un terrain, peut-elle récupérer une partie de ce terrain à son locataire pour le revendre en terrain à bâtir?
Ouais, c'est une question qui se pose de plus en plus souvent, parce qu'effectivement, on a des propriétés où les règles d'urbanisme ayant changé, vous pouvez couper le jardin et construire carrément une nouvelle maison dessus. Alors la difficulté, c'est qu'au niveau de l'urbanisme, vous avez ce droit, et on va se retrouver tout bêtement face au bail, où on va vouloir modifier l'objet du bail. Et le locataire, ce serait nous, on serait les premiers à dire, attendez, moi, vous m'avez loué une maison avec un jardin, c'est pas la même chose si vous ne donnez pas le jardin. Et donc, soit vous tombez d'accord avec une négociation classique en disant, je suis d'accord pour réduire l'emprise de mon bail, ne plus avoir la même emprise de jardin ou avoir un jardin plus petit, ne plus du tout avoir de jardin, mais il y a peut-être une compensation sur le loyer à discuter, parce que c'est plus le même bien. Soit vous tombez pas d'accord, et dans ce cas-là, en fait, elle va être obligée d'attendre la fin du bail, de reprendre le bien pour pouvoir... Elle pourra pas, judiciairement en tout cas, elle pourra pas obtenir du tribunal
à partir du moment où elle a un bail qui le lie avec son locataire, bien
non,
sûr.
Elle a un bail, elle sera obligée de le respecter. Soit elle trouve un accord avec sa locataire ou son locataire pour réduire l'emprise, certainement moyennement compensation financière. Soit elle trouve pas d'accord.
Ça peut être une gratuité de loyer, par exemple, ou une franchise.
C'est souvent comme ça que ça se traite, effectivement, en disant.
Voilà, vous m'arrangez le coup, puis vous paierez pas le loyer pendant 3 mois.
Ça peut aussi arranger le locataire dans certains cas.
Bah oui, bien sûr, bien sûr. Surtout ceux comme vous qui n'aiment pas jardiner.
Il est très branché.
Ça peut que les arranger.
C'est toujours très clair avec Benoît Morel, notaire à Paris. Merci beaucoup, Benoît. Je rappelle qu'on retrouve votre étude, boulevard Haussmann. Donc, c'est le bon réflexe pour trouver un bon avocat dans le 8e arrondissement et on vous retrouve très facilement aussi avec votre adresse et vos coordonnées. Vous pouvez toujours, bien évidemment, questionner les experts. C'est très simple. Vous prenez rendez-vous, vous allez directement sur la page Facebook du groupe Facebook Les Clubs des Proprios. C'est vous qui le gérez, Guillaume, par Capital, où on sélectionne vos questions et on tâchera de vous y répondre tous les mois. Merci, Maître Morel. On vous retrouve le mois prochain ou le mois d'après. Mais en tout cas, vous êtes toujours le bienvenu dans notre émission. On enchaîne tout de suite. Merci.
Avec plaisir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà, c'est fini pour ce 36e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous rappelle que vous pouvez aussi, bien sûr, réécouter toutes les émissions en podcast sur les plateformes, mais sur le site de Radio Immo également, ainsi que capital.fr. Et on va se retrouver le mois prochain, Guillaume.
Oui, on se retrouve pour une spéciale consacrée aux acheteurs. On vous donnera toutes les clés pour mener à bien votre projet d'achat en 2022. Et pour ce, rendez-vous le vendredi 18 mars à 18h05.
Voilà, le printemps arrive, les projets se construisent. On va vous aider à vous donner les bons tuyaux. Merci Guillaume, merci à toutes les équipes de Radio Immo et de Capital. Nicolas, David, Jason, toutes les équipes. Voilà, ils font un super boulot. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Et au mois prochain pour un nouveau grand rendez-vous de l'immobilier.
Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimmo.fr et capital.fr.